Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Benjamin Muller avec vous bien sûr au 32-16 pour répondre à cette question existentielle. Faut-il parler de son passé à son conjoint? On attend tous vos témoignages également sur l'application RMC. À 14h30, mon RMC s'engage pour vous et on va revenir avec Élise Dangean sur le dossier d'Hervé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Hervé, il n'arrivait pas à se faire rembourser les soins dentaires par sa mutuelle. On a du nouveau dans ce dossier très, très, très compliqué. Et puis, il y aura bien sûr les immanquables, toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il fallait pas rater quoi, Rémi?
Et on en reparlera notamment du rongeur du jour, figure-toi. Les rats sont les bienvenus à Bordeaux. Je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, la mairie les défend. Et puis, on parlera également de la grève à la SNCF. Avec c'est bizarre. Les prix, là, en ce moment, pour ce week-end, ils explosent.
Et oui, il n'y a plus de train.
Et voilà.
Eh bien, bien sûr. On en parlera dans les immanquables.
RMC Estelle Midi.
Mais tout de suite, nous allons passer à la question du jour. Et cette question, vous vous l'êtes forcément posée si vous êtes en couple. Faut-il raconter son passé à son nouveau partenaire? Histoire d'amour compliquée, rupture, addiction, problème d'argent. Les Français sont-ils honnêtes avec leur conjoint?
Alors, je n'ai pas trouvé, on a regardé ce matin, on a cherché, cherché et recherché un sondage sur, à savoir si les Français disaient tout de leur passé à leur conjoint. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien des choses à raconter. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il serait vain de croire qu'on est le premier ou la première pour qui l'autre a des sentiments. Si c'est certains le pensent. Une étude Statista nous apprend ainsi qu'à la question « Combien de fois avez-vous été amoureux dans votre vie ?» 25% des Français déclarent 4 fois ou plus, quand même. 24% 3 fois, 20% 2 fois, et en fait, seuls 16% répondent une seule fois. Que l'autre est un saint ou une sainte? Non, mais ça n'y croyez pas. D'après un sondage IFOP, une grande majorité d'hommes, 60%, et de nombreuses femmes, 44%, reconnaissent avoir eu dans leur vie au moins une fois une relation sexuelle sans lendemain. Juste une nuit, parfois sans même connaître le prénom de leur partenaire. Enfin, parce que c'est l'une des questions...
Ils ne s'en souviennent pas.
Oui. Enfin, c'est parce que c'est l'une des questions quand on s'interroge sur l'autre. On
va dire, oui,
a-t-il été toujours fidèle? Bah là, encore, un indicateur. C'est toujours l'IFOP qui pose la question. Depuis que vous êtes en couple avec votre partenaire actuel, vous est-il arrivé d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne? Réponse, oui, pour un homme sur quatre. Oui. 25% d'entre eux.
Donc parmi ça, c'est eux. C'est pas le passé, c'est le présent.
Oui, mais parmi eux, oui, mais ça veut dire que, voilà, il y a des questions à se poser. 10% répondent même de temps en temps ou souvent parmi ces hommes. Et ce n'est que 5% pour les femmes, en revanche.
Ouais, parce que nous, on est fidèles, on est des saintes, évidemment. Faut-il raconter tout son passé à son conjoint, Benjamin Muller?
Oui, tout son passé, tout son présent. Moi, je suis un libéral total. Ah oui. Je pense que oui, il faut
tout. Vous dites tout dans votre couple?
Oui, en fait. Et moi, je pense même que ce qui ne m'est pas arrivé, mais en cas d'infidélité, je pense que ça peut valoir le coup de le dire, comme disait Perico tout à l'heure, sur une vie entière.
Les psys disent ne jamais rien avouer.
Oui, mais il ne faut pas toujours écouter les psys. Mon grand-père, qui est aujourd'hui décédé, il a été marié pendant 50 ans avec ma grand-mère, et un jour, je lui ai demandé c'était quoi le secret pour que ça dure si longtemps. Et bon, il m'a un peu douché. Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, ben, c'est l'amour. Ouais. Et il m'a dit, ben non, c'est la patience, c'est la gentillesse, et puis c'est fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. Et j'avais 20 ans à l'époque, je me suis dit, mais de quoi il parle? Et un peu plus tard, j'ai compris. Et oui, il faut aussi peut-être fermer les yeux, ou bon, bah, si l'autre est allé voir un petit coup ailleurs, écoutez, est-ce que c'est vraiment grave sur une vie entière? Moi, je pense pas. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que oui, il faut tout dire. Après, il y a des choses honteuses. Si on parlait des addictions, il y a peut-être des passés, ou si on avait pu être violent, ou si on a pu, je sais pas moi, être condamné pour quelque chose. Moi, je pense que c'est mieux d'être transparent, de dire, je veux dire, si la personne tombe amoureuse de vous, elle tombe amoureuse pour ce que vous êtes entièrement. Donc,
bah non, peut-être qu'elle sait pas justement, et que le jour où elle sait.
D'où l'intérêt de le dire dès le début, d'être en jeu, jouer, ouais.
Ah oui.
Comme au poker, on sort le jeu, comment on dit,
bah
au poker.
Non, au poker, on ment justement.
Donc, ah oui, bon, alors l'inverse du poker. Non, je joue
mieux
pas au poker.
Vous montez, plus vous gagnez. Donc,
je suis tenté d'aller dans votre domaine, mais c'est pas mon domaine.
Emmanuel Dancourt, est-ce que c'est important de tout dire ou au contraire de garder un jardin secret quand même?
Ouais, alors un jardin secret, faut pas que ça devienne un grand parc dont on a perdu la clé. Ici, c'est la team la team transparence, hein, très clairement. On se connaît pas du tout, hein. C'est la première fois qu'on se voit avec Benjamin, mais je trouve qu'on a pas mal
de... On est en train de se rapprocher.
On est en train de se rapprocher, Benjamin. moi, je suis totalement pour la transparence et c'est vraiment une expérience de vie qui m'a enseigné cela parce que si on... Alors, moi, quand j'ai rencontré mon compagnon, avant même qu'on soit ensemble, je lui ai balancé toute ma vie. Et je peux vous assurer qu'il y a des trucs pas glorieux du tout. Mais je voulais savoir exactement. C'est exactement ça. Je voulais savoir jusqu'où il tiendrait et jusqu'où il avait vraiment envie qu'on soit ensemble.
T'as pris des risques,
quand même. Il a tout pris. Et il m'a dit un truc très très fort. Il m'a dit, Emma, si tu changes quoi que ce soit à ton histoire, on ne se rencontre pas. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et il m'a, moi qui me reprochais énormément de choses, j'ai mis d'ailleurs du temps avant d'accepter son point de vue. Il me dit, change un seul truc. Oui, c'est pas glorieux ce truc-là. Change un seul truc, on se rencontre plus. Donc il dit, je te prends avec tout ton passé, comme tu me prends avec tout mon passé, sachant que lui, il est veuf. Donc il faut que j'accepte moi qu'avant moi, il y a une autre femme, 27 ans d'amour sans nuage. Un jour, ils se sont engueulés parce qu'il avait laissé traîner ses chaussettes quand même. Mais voilà, il a fallu accepter moi qu'il y ait eu un amour fort avant moi, ce qui est pas toujours facile à accepter. Ça a même un nom, ça s'appelle la jalousie rétrospective. Et donc voilà, on s'est absolument tout dit. Par contre, ce que je refuse, c'est effectivement, on en parlait un tout petit peu hors antenne, c'est qu'on blesse l'autre. On n'est pas obligé de rappeler en permanence qu'on a follement aimé la personne d'avant. Ah bah oui, on n'est pas obligé de rappeler qu'on a pris son pied, mais un truc de dingue avec un tel et un tel. Et voilà, si ça ne blesse pas l'autre. Mais je crois que ça dépend qui on est, quelle est notre histoire, et puis surtout quel est le passé aussi.
Oui, c'est ça.
Donc chacun aura sa réponse.
Et est-ce qu'on parle de son passé amoureux? Alors vous avez été marié plusieurs fois, vous, Perico. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à déjà à poser des questions à l'autre et à répondre à leurs questions le cas échéant?
C'est le principe du couple, et plutôt s'il y a mariage, pour le meilleur et pour le pire. Voilà.
Comment on est obligé de raconter le pire?
Cacher quelque chose, c'est entamer un peu l'amour. Voilà, l'amour, le secret de l'amour, vous le disiez un petit peu, c'est pas les bonheurs, c'est les concessions. Oui. Et le poids des concessions et la force des concessions fait que l'amour est solide. Voilà. À partir de là, on peut écouter un passé. Il y a des histoires amoureuses qui réussissent parce que le partenaire se soulage d'avouer une souffrance ou quelque chose de grave qu'il a commis.
Ouais, mais là, je parle du passé amoureux, par exemple.
Alors, le passé.
Quand vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui a eu 1 milliard d'aventures, etc., et qui est plutôt volage. Bah, vous préférez peut-être ne pas le savoir, parce que si vous le savez, ça
non,
a peut-être changé votre regard.
Non, parce que ça va renforcer. Si vous lui dites, j'ai eu un amour, une passion amoureuse très forte, une très belle histoire, et avec toi, j'en vis une autre aussi forte, ça dédouane de ce qui a pu se passer. Si on ne dit rien, vous savez, je connais des couples qui ne se disent rien, qui ne se sont rien dit, et qui vivent un amour absolument impeccable.
Bah oui.
Mais si on est dans la communauté, puisque pour utiliser ce terme, la communauté de destin, c'est aussi la communauté de passé. Et à ce moment-là, je pense que de dire à l'autre, voilà mon secret, voilà ce que j'ai au fond de mon cœur, comme souffrance, comme chagrin d'amour, ou au contraire comme richesse, je le partage avec toi et on continue à le vivre ensemble, ça peut être un élément qui consolide l'amour. Ensuite, c'est pas une obligation, tout ça est tout à fait relatif. Voilà.
Surtout que mais, ce qu'on cache, tu crois pas que ça peut ressortir aussi à un moment ou à un autre, un truc qu'on
non,
a pas
là
dit.
Non, mais là où Estelle a raison, c'est que, attention, tu balances ton casier judiciaire en quelque sorte.
Bah oui, bon, moi c'est fait.
Et que le jour où ça va mal, j'ai connu des couples qui vous rebalancent, tu me l'as dit toi-même que tu avais eu ce genre de comportement, donc tu le reproduis avec moi.
Excusez-moi,
donc c'est bien toi.
J'en reste débat, mais les femmes n'oublient rien. Vous savez très bien, Emmanuel.
Ouais.
Donc voilà,
je suis bien placée pour
regarde
savoir.
Tout, on a une petite case.
Et
ressentiment.
Oui, mais c'est, l'amour est une prise de risque. Hein.
Et elles savent mentir. Elles oublient rien, elles savent mentir.
Non, c'est par omission, ça n'a rien à voir avec le vrai mensonge.
C'est ça, j'avais oublié.
Ah, bah, je trouve que c'est totalement différent.
C'est votre droit. Vous voyez, je suis pour cette différence homme-femme. Vous avez le droit de nous faire plus de mal quand vous en avez fait.
Mais je trouve qu'on vous pose aussi beaucoup plus de questions que vous nous posez.
Ça, c'est vrai.
C'est rentable.
Parce que nous, on veut tout savoir, alors que vous, j'ai un peu
de mal. Et surtout, vous avez le détecteur de mensonges.
Ah, bah, tellement.
Ah, bah,
on a des radars à mensonges.
Moi, je vois tout de suite.
Ah, bah, bien sûr.
Tout de suite.
On est avec Michèle Boiron, notre invitée sur ce débat. Elle est psychologue, clinicienne et thérapeute de couple et sexologue. Bonjour, Michèle Boiron.
Bah, bonjour. Alors, je vous écoutais attentivement.
Oui.
Donc sur la question de dire toute la vérité sur son passé, moi j'ai l'impression que la question c'est me semble être comment on en parle et jusqu'où on peut aller.
Mais c'est ça. Alors justement, jusqu'où on peut aller?
De fait.
Parce que l'idée selon laquelle on mentirait ne tient pas la route. On peut pas construire sur du mensonge, mais l'honnêteté sur son passé ne dit pas le déballage et la transparence totale. En fait, il faut trouver un curseur. Je pense qu'aujourd'hui, on nous dit qu'un homme, c'est comme une femme, c'est comme un homme.
Ben
je
non.
pense qu'il reste toujours des différences, je le pense et je le constate tous les jours. Ah. Et les hommes, effectivement, posent la question aux femmes. Je pense que, eu égard aux difficultés des hommes en ce moment, qui sont un petit peu malmenés quand même sur leur performance, est-ce qu'une femme doit aligner et donner des détails sur ses conquêtes? Parce que, en même temps, ils veulent aussi une femme d'expérience. Mais je pense que il faut pas cacher qui on est. Je pense que l'autre le découvrira. Je pense que la transparence n'est pas bonne. Quant à au côté féminin, bon bah effectivement, la femme aujourd'hui qui veut que l'homme fasse les courses, lange le bébé, aille le chercher à la crèche, et une sexualité de macho, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que chacun n'attend pas la même chose du passé de l'autre. C'est et ça. Les questions sont souvent là. Quelqu'un disait on va s'en resservir après. Oui, il n'y a pas d'oie blanche aujourd'hui. La question va être posée. Et je pense qu'on peut, sans s'inventer une vie, en tout cas, être au plus près de ce que l'on ressent. Et puis, je pense que je voulais vous poser la question de est-ce qu'on parle de gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans?
Bah ça dépend. Ça dépend. Mais c'est sûr qu'à 30 ans, on a moins de choses à raconter sur son passé qu'à 70.
Oui.
Non, mais t'attends pas la même chose à 30 ans.
Il y a des gens qui, à 80 ans, n'ont rien à dire.
Non, mais attends, si tu rencontres quelqu'un quand t'as 60 ans, et a priori, tu vas pas vouloir faire des enfants. Tu vois, donc déjà, il n'y a pas ce truc-là. T'es moins obligé de raconter ton passé. Tandis que quand t'as 30 ans, tu veux construire une vie avec l'autre, bon, bah, c'est peut-être important de plus de savoir.
C'est le film 4 mariages et un enterrement, vous savez, où Grant et Andy McDowell, où elle lui fait la liste de tous ses plans cul. Alors là, le plan 1, il est super. Vrai. Le plan 2, un peu pourri. Le plan 3, c'était rapide.
Jusqu'à 23, 24, 25.
Et l'autre, il en peut plus, parce que lui, il a couché avec 4 filles dans sa vie. Bon, il sait pas exactement. Mais ça plante les bases.
Peut-être il est important de parler aussi des gens qui ont soit une culture qui exige d'arriver vierge au mariage, et j'en rencontre de plus en plus côté masculin et féminin, et aussi, puisque je suis sexologue, les pathologies comme le vaginisme, où les femmes sont impénétrables, donc elles peuvent arriver à 27 ans, à 30 ans, elles ont eu des petites choses, mais alors celles-là, elles ont honte de leur virginité, si je puis dire, entre parenthèses. Donc voyez, on peut dire des grandes lignes, et je pense que effectivement, on peut pas baser un nouveau couple, une rencontre sur un mensonge total, mais le déballage et la transparence. Parce que là, évidemment, c'est pas la question, mais je l'avais mal comprise au début quand vous m'avez interrogé par texto. Et je pensais surtout aux gens qui déballent quand ils sont en couple. Ils ont une petite amie à 5 ans, le monsieur ou la dame ne vit pas bien avec ça. Donc d'un coup, elle se met à déballer une affaire réglée. Mais quand je vous dis réglée, ça veut dire la maîtresse n'est pas toujours d'actualité. Oui. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec ça. Ça veut dire qu'une espèce de culpabilité intense les envahit. Et ils balancent tout à l'autre pour se soulager.
C'est ça.
Et là, c'est des catastrophes parce que l'autre n'avait rien vu.
C'est ça.
N'a pas voulu voir. Et du coup, vous voyez, il y a aussi cette question, mais qui n'est pas la même. Mais puisqu'on pose la question de la transparence et de la vérité, à partir du moment où le couple est constitué, on part sur quoi? Et là aussi, c'est important.
On est avec David qui nous appelle de Mont-Doubleau dans le Loir-et-Cher. Bonjour David.
Bonjour l'équipe.
Alors, David, on vous a beaucoup eu déjà dans Estelle Midi, mais plutôt sur des sujets d'inflation, de consommation au supermarché. Mais alors là, vous voulez nous parler de votre couple et c'est formidable, David. Vous avez tout dit, vous, à votre compagne ou pas?
Ben oui, ben c'est justement votre sujet. Alors là, franchement, vous tombez en plein dedans. J'en ai parlé il n'y a pas plus tard que deux jours. J'ai raconté ma petite vie célibataire, entre guillemets, où en fait j'étais avec une copine australienne où ça se passait très très mal, et donc en fait on est parti en Tunisie pour histoire de se réconcilier.
D'accord.
Et en fait je suis sorti avec une Allemande.
D'accord,
et
oui, bon.
Du coup, donc je lui ai raconté.
Vous êtes un citoyen du monde, David.
Voilà.
Donc, globalisé.
Oui, je suis très européen, moi. Et donc.
L'Australie, oui, vous avez raison.
Tunisie aussi.
Et donc, ça s'est très très mal passé parce qu'en fait, elle m'a dit oui, tu vas faire pareil avec moi. J'ai passé une nuit sur le canapé, quoi. Parce que, voilà, du coup, j'aurais pas dû raconter mon passé. Pas du tout. Ouais. Parce qu'en fait, elle a très très mal pris parce qu'elle m'a dit oui, si ça se passe mal avec moi, alors tu vas aller voir quoi, une autrichienne?
Et ben voilà. Donc, voilà. La petite case à ressentiment.
C'est parce que David n'a pas rassuré sa compagne. C'est
ou parce qu'elle est très jalouse.
Peut-être qu'elle est très jalouse, mais c'est un amour qui n'est pas encore totalement ancré.
C'est très bien que je l'aime. On est en enfance les deux.
En plus.
Après, ça fait du bien.
À mon avis, vous avez mal rangé vos chaussures aussi, David.
Oui, c'est ça. Je range jamais, donc ça.
Ah ben voilà. Et ben voilà,
David.
À mon avis, c'est un sujet de discussion.
C'est la cause. On va demander à Michel Boiron, tiens, parce qu'il y a une question très importante qui se pose. Est-ce qu'on peut être jaloux du passé de son partenaire, Michel Boiron?
Oui, on peut.
Oui, la jeune.
Ça, c'est surtout quand on n'est pas très sûr de soi, mais ça dépend aussi, encore une fois, de la manière dont l'autre expose. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lit entre les lignes ou est-ce qu'on prend toute l'histoire comme ça? Mais les femmes, vous savez, elles pensent qu'elles vont changer les hommes. Vous savez, une femme qui rencontre un donjon, au lieu de se dire je vais être la
c'est tellement vrai.
55e, Et puis après, plus jamais. Vous voyez,
je veux dire,
on a aussi.
Je suis la dernière.
Le premier jour du reste de sa vie.
C'est tellement ça, Michel.
Pardon?
C'est tellement ça.
Vous avez raison.
Oui, je suis la dernière. Donc, si vous voulez, vous savez, c'est comme vous rencontrez un homme qui vous, enfin à l'époque où les hommes partageaient pas payer l'addition. Il y a des gens qui viennent au bout de 10 ans et qui disent, oh là là, c'est un radin. Comment c'était la première fois que vous êtes rencontrés il y a 10 ans? Mais écoutez, on a pris un café ensemble, il a pas payé le mien, ou alors il a oublié sa carte bleue. Ouais. En fait, on se plaint de choses qui sont inscrites. Qui sont inscrits dans la première vision de l'autre, qui est très forte, et on se le cache. Le Don Juan, qui s'est tapé ma copine et tout le lycée ou toute la machin, tout le monde le sait, mais non, avec moi il va être différent. Et ça, je crois que c'est un peu le leur.
Bah, il y en aura bien une dernière, hein, de toute façon, Michel Boiron.
Pardon ?
Il y en aura bien une dernière, forcément, de toute façon.
Il y aura une dernière avant que m'en s'en suive, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Non, mais je pense que la mesure aujourd'hui, avant on disait pas parce que on était coupable et qu'on devait arriver vierge au mariage, c'est tout. Aujourd'hui, personne ne veut épouser ni un homme vierge ni une femme vierge, sauf effectivement encore une fois dans certaines cultures.
On le sait pas toujours.
C'est normal, mais l'expérience des femmes, un homme, il a toujours quand même, je suis désolée, un problème avec son phallus, pas son pénis, avec son phallus. Et une femme qui serait une femme à homme, ça va le rendre quand même un petit peu défaillant. Et aujourd'hui, où il doit cocher toutes les cases, au boulot, à la maison, à la cuisine et machin, je pense qu'on peut laisser un petit peu la virilité à l'homme pour qu'il assure et qu'il soit pas en permanence.
On lui dit que c'est le premier vrai, quoi.
Oui, merci, docteur. C'est rassurant.
On a 45 ans et on lui dit c'est vraiment le...
Non, mais moi, j'ai écrit sur la fragilité masculine et je pense...
Mais elle est immense.
Ah ben, vous avez raison.
Je pense vraiment que les hommes... sont un peu malmenés. Oui, il y a une fragilité qui est due malheureusement à notre physiologie. Quelle que soit la manière dont on a envie ou pas envie, si on nous prépare bien, on peut faire l'amour. Un homme qui a un problème ou que la femme annule ou que lui-même a un problème, il n'y arrivera pas. Donc, du coup, c'est à partir de ça que la fragilité, elle est de fait et que un homme, c'est fragile. Voilà.
Enfin, un mot humain sur l'homme, hein. Ça fait plaisir de temps en temps. Vraiment. Moi, j'ai rien dit jusqu'à présent, mais là, ça commence.
Alors, je vais poser une question à Michel, ou même à vous tous en plateau. Est-ce que vous connaissez un film dans lequel Charlotte Rampling a joué qui s'appelle 45 ans? Et c'est l'histoire d'un couple qui vit ensemble depuis 45 ans. Ils vont fêter leur anniversaire de mariage et au moment des préparatifs, il y a une lettre qui arrive pour le mari lui annonçant qu'on a retrouvé le corps gelé dans une crevasse des Alpes de son tout premier amour, Katia. C'était il y a 50 ans. Et en quelques jours, la semaine, le temps de la préparation des 45 ans de mariage, elle va se rendre compte, Charlotte Rampling, que son homme, en fait, est toujours amoureux d'un amour de 50 ans. Et qu'en fait, qu'elle a cru vivre en 45 ans n'est pas ce qu'elle a vécu. Et lui, il n'en avait pas parlé. Et ce film, il est incroyable. Sur la jalousie rétrospective dont je vous parlais, il est incroyable.
On est avec Maya qui nous appelle de Paris. Bonjour Maya.
Bonjour tout le monde.
Maya, vous êtes en couple depuis 15 ans. Est-ce que vous avez tout dit à votre compagnon?
Alors, tout dit, non. Je n'ai pas tout dit, mais si vous voulez tout savoir, en fait, on est en couple. On se quitte, on se remet ensemble, mais là, ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble. Oui. Mais on a surtout été très copains avant d'être en couple. Donc, comme c'était un bon copain, il sait plein de choses de ma vie. Et aujourd'hui, je regrette amèrement, parce qu'à chaque dispute, il me ressort des trucs, des vieux dossiers qui sortent de nulle part. et c'est hyper pénible, parce que moi, j'ai le sentiment qu'en fait, il fait une intrusion dans ma vie qui est une vie passée et qui n'est pas la nôtre. En fait, c'est juste la mienne.
Et vous ne faites pas pareil parce que vous étiez aussi sa confidente, j'imagine.
Bah ouais, mais les mecs, ils se confient moins que nous.
Oui, c'est vrai.
C'est pas pareil. Nous, on est des bavards.
Ça dépend lesquels.
Et puis voilà, donc lui, il reste... Mais même aujourd'hui, hein, il reste très secret sur pas mal de choses dans sa vie, ce que je respecte parce que, voilà. Mais moi, je le suis moins et toujours à mes dépens. Et à chaque fois, je me dis... Tais-toi. Et en fait, j'arrive pas à me taire parce que c'est mon mec. Et puis, j'aime bien partager des choses avec lui, mais c'est pénible.
Ouais, parce que ça se retourne contre vous, en fait.
Eh bien, complètement. Donc, donc l'honnêteté ne paie pas forcément, finalement.
Voilà. Exactement. Et c'est ce que disait Michel Boiron, d'ailleurs.
Oui, Benjamin. Mais d'ailleurs, je regrette amèrement que Michel Boiron ne soit pas en région parisienne, parce que je serais allée la voir.
Ça m'aurait fait.
Faites un visio.
Bah oui, faites des visios, Michel Boiron.
Le de Colis, ne propose pas de visio, alors voilà.
Non.
Vous êtes où?
Je suis dans le 17e arrondissement.
Eh ben alors.
Et vous, Maya?
Je suis dans le 17e arrondissement aussi.
Eh ben alors. On a créé un couple.
Ah, vous habiteriez Nantes ou Brest, je comprendrais, puisque vous n'aurez plus d'avion. Mais là, vous pouvez venir tranquillement.
Non, c'est parce que pendant le Covid, j'avais un cabinet avant mes numéros.
On va vous mettre en contact après le.
Attendez, parce que pendant ce temps-là, je reçois un SMS de mon homme qui me dit. Pardon chérie, moi ça m'aurait quand même posé un problème si tu ne m'avais rien dit.
Donc, quoi, la transparence, c'est aussi des.
Voilà. Non, je comprends.
Maya, elle est un peu prise en otage.
Moi, je me demande de la transparence quand on parle de choses beaucoup moins joyeuses, parce que là, on parle de petites tromperies, parce que j'ai des volages. Ben, en fait, il y a un sujet, j'aimerais vraiment parler avec Michel Boiron, c'est celui de.
Allez l'avoir en consultation.
Non, pas personnellement, mais je vais vous expliquer. Lorsqu'on a été victime de choses dures dans sa vie, notamment l'inceste. J'ai animé un podcast il y a quelques temps sur, vous savez, souvent quand les personnes qui ont été victimes d'inceste pendant l'enfance, au moment où ils deviennent parents, ça réveille ce traumatisme. Ouais. C'est quelque chose que j'invente pas, qui est pas nouveau, etc. En devenant parent, pour plein de raisons, ça réveille la chose. Ouais. Donc c'était un podcast là-dessus, j'avais énormément de gens qui témoignaient, qui racontaient ça. Quand je suis devenu père, quand je suis devenu mère, ça a réveillé des trucs, etc. Et franchement, plus d'un sur deux me disait, je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, je ne l'ai pas dit à mon mari, avec qui je suis pourtant depuis 10 ans. On se dit tout, mais ça, je ne le dis pas. Donc, quand on dit faut-il tout dire, j'aimerais bien avoir l'avis de Madame Boiron là-dessus. C'est insupportable, j'imagine.
Toi, tu le ressens aussi.
Oui, j'imagine, mais qu'est-ce qui est conseillé pour ces gens-là? Et on sait qu'il y a énormément de victimes d'inceste, donc il y en a probablement beaucoup qui nous entendent en ce moment. Qu'est-ce qui est conseillé sur cette chose-là? Est-ce que vous conseillez de dire notamment cela?
Qu'est-ce qu'on arrive à faire?
Alors, je pense que quand on est dans le déni, c'est compliqué, mais si vous voulez, on ne peut pas dire tout à tout le monde. Hein. Ça veut dire quand vous êtes avec quelqu'un, effectivement, depuis quelque temps, que tout va bien, souvent, si vous voulez, ces victimes... Ça marche, là, le... Oui. Ces victimes... Pardon, excusez-moi, j'avais un faux appel. Ces victimes, elles portent souvent sur elles, effectivement, des stigmates de la sexualité, et l'autre ne peut pas avoir une bonne lecture.
Il ne peut pas comprendre.
Voilà. Donc, en fait, moi, je vois en thérapie, il y a des choses qui sortent, y compris des choses pas forcément aussi graves que l'inceste ou que des attouchements, mais c'est surtout pour une lecture... sexologique, parce que commencer la vie en se présentant victime, si vous voulez, quand ça va pas bien, ah bah oui, mais toi, les gens cabossés, moi j'adore les gens cabossés, ils ont une histoire, après ça devient des rides et tout ça, c'est formidable, mais encore une fois, à qui, comment et jusqu'où, quoi. Et il y a des moments pour ça. C'est une vraie question, hein.
Bien sûr.
Il y a des gens qui dès la première rencontre vous disent ça, et surtout aujourd'hui, maintenant qu'on dit de cette fameuse transparence de tout, mais je crois qu'il faut y aller vraiment à petite dose et peut-être le faire ensemble et accompagné par quelqu'un. En thérapie, on peut dire des choses et c'est contenu. Mais quand d'un coup, voilà, je parlais du vaginisme, il y a des choses, des femmes qui ont vécu des choses terribles et si elles le balancent, elles sont stigmatisées. C'est la stigmatisation qui est compliquée, y compris dans le couple. Alors, on peut essayer de voir, mais à mon avis, il faut en parler s'il y a vraiment un problème sexuel. Parce que c'est quand même beaucoup autour de la sexualité que ça va se jouer. Okay. Et ça fait des femmes malheureuses et des hommes malheureux. Parce que, évidemment, il n'y a pas que les femmes qui ont été touchées. Et les hommes n'en parlent pas. Enfin, en tout cas, moins. Mais il faut aller tout avec modération et dans des circonstances bien particulières. Et pas la confidence.
Évidemment, lorsqu'on va au bar boire un verre. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Boiron, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il raconter son passé à son conjoint?
C'est extrêmement partagé. C'est oui, le oui qui l'emporte, mais d'une courte tête pour 52% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, il y aura RMC s'engage pour vous. On va revenir sur le dossier d'Hervé. Il n'arrivait pas à se faire rembourser des soins dentaires par sa mutuelle. C'est un dossier extrêmement complexe et on a du nouveau. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h30 dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et c'est le dernier RMC s'engage pour vous de la semaine.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et le vendredi, avec Élise Dangean, dont RMC s'engage pour vous, eh bien, on prend des nouvelles des anciens dossiers, souvent des dossiers extrêmement complexes. Et aujourd'hui, on revient sur Hervé. Hervé qui a des problèmes avec sa surmutuelle.
Ouais, et c'est un dossier très complexe, avec de gros enjeux, puisque vous le savez, Estelle, rien de plus cher que les soins dentaires. Dans le cas d'Hervé, on parle quand même de 1300 euros de reste à charge pour la pose de deux couronnes, après donc remboursement de l'assurance maladie et de sa complémentaire santé. Il avait donc décidé de souscrire à une surmutuelle. C'est donc une deuxième mutuelle qui s'ajoute pour réduire un peu la facture. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'entreprise refusait de le rembourser au motif qu'il savait déjà qu'il avait des soins à réaliser au moment de la signature du contrat. Sauf qu'Hervé avait bien expliqué sa situation, deux vies à l'appui, avant de se lancer. Et c'est à vous, Estelle.
Ah oui, bien sûr, j'attendrai
après.
Je me disais, tiens, j'attendais l'interview d'Hervé. Mais donc, ma question est simple, est-ce que vous avez pu l'aider?
Absolument, on a pu l'aider. Grâce à notre intervention, le courtier Richard Santé, qui a vendu le contrat à Hervé, a plaidé sa cause auprès de la mutuelle. Et c'est ainsi que 15 jours après la diffusion de notre chronique, Hervé a reçu un chèque de 1200 euros, soit la totalité des cotisations qu'il a versées pendant un an.
Moi, je suis satisfait, hein, et surtout, je vous remercie beaucoup. Si jamais les journalistes, justement, vont pas au front, eh ben, nous, on n'est pas forcément remboursés. Je récupère la mise et, in fine, elle est pas très loin de ce qu'il me devait en termes de soins.
Et désormais, donc, le contrat d'Hervé est bel et bien résilié.
Ouais, c'est une super nouvelle, hein, en tout cas pour lui et puis pour nous aussi, parce que ça augmente notre taux de résolution. Mais qui est responsable finalement dans cette affaire?
Alors, comme toujours, tout le monde se rejette la faute. Le courtier Richard Santé estime que la mutuelle aurait dû rembourser les soins. La mutuelle, elle, considère qu'Hervé aurait dû savoir qu'on ne peut pas assurer un risque déjà connu. Soit, notre auditeur, lui, estime que le courtier a mal fait son travail, la mutuelle aussi d'ailleurs, et que l'un des deux aurait dû le prévenir.
Pour les futurs clients, c'est pas forcément non plus gagné. En fin de compte, vous avez un courtier qui vend un produit qu'il connaît pas, ou alors qu'il connaît, mais qui fait exprès de rien dire, et puis qui renvoie la balle au mutualiste qui dit, bah, le courtier, il fallait qu'il vende mieux.
Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'Hervé, on va y arriver, hein, a été bien échaudé par toute cette histoire et qu'à l'avenir, bah, il va plutôt économiser, hein, s'il a de prochains frais de santé.
Oh ben non, les couronnes, c'est bon, hein, ça dure 20 ans. Hein, donc,
Oui, mais il peut y en avoir sur d'autres dents.
Hein, donc, il n'avait pas pensé à ça.
Bah oui,
il peut en avoir 32 du coup.
Bon, en tout cas, on lui souhaite des frais de santé les plus minimes possibles, voire inexistants. On lui souhaite la santé à Hervé, évidemment.
Voilà, et puis bravo, Élise, une nouvelle fois, un cas résolu dans RMC s'engage pour vous. On a quoi lundi?
Lundi. Vous fouillez dans ma mémoire. Oui. Alors lundi, c'est un super sujet.
Ah bah alors.
Et en plus, c'est moi qui vais le présenter.
Ah bah super.
Lundi, on parle de prime inflation pour les étudiants boursiers. Ils sont plusieurs centaines à ne pas encore l'avoir perçue.
Ah bon?
Ouais. Ça a été lancé le 15 septembre.
Oui.
Les versements le 15 septembre. Donc là, on est le 2 décembre et ils n'ont toujours rien.
Ah oui, mais ça avant, ça arrivait sur des vols intérieurs. Vous savez, les Paris Lyon, Paris Bordeaux.
C'est fini.
Et vu qu'on les a enlevés,
c'est fini.
Et bah, voilà.
Voilà.
Et ça, oui, ça
il faut qu'ils aillent voir dans les mini-bars des hôtels. À mon avis, elles sont là.
Merci beaucoup, Élise Dangean. RMC s'engage pour vous tous les jours vers 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, on va revenir sur la grève des contrôleurs de la SNCF, la flambée du prix des péages. Non, mais tout va bien, là, France, hein. Et puis, quand même, voilà, le Téléthon qui va démarrer aujourd'hui et durera jusqu'à demain. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Benjamin Muller. Et voici tout de suite les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et Rémi, nous allons commencer avec le prix du jour.
Oui, jusqu'à dimanche, avec la grève des contrôleurs de la SNCF, seuls 4 trains sur 10 sont en circulation. On parle des TGV et des intercités. Les chefs de bord réclament une hausse de salaire notamment. Et face à cela, bah, les voyageurs, ils ont deux solutions. Soit se faire rembourser.
Soit rester chez eux.
Soit essayer de changer de train pour un prix beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce qu'avec la grève, malgré la grève, il y a moins de trains, certes, mais le système de tarification, lui, ne change pas. C'est bien l'offre et la demande qui déterminent le prix d'un billet, moins de trains, beaucoup de demandes, et bien les prix explosent et certains clients de la SNCF sur les réseaux sociaux dénoncent cette situation et accusent la SNCF de se gaver sur leur dos.
Et bientôt ils pourront même plus prendre l'avion pour comme alternative. Perico Légas, ça vous choque ça?
Qu'il fasse grève?
Non. En fait, c'est la double peine, quoi, pour les gens qui voyagent. C'est-à-dire que les gens qui devaient partir là, bah, un, leur train a été annulé ou supprimé, et deux, ils veulent en prendre un autre et ça coûte 10 fois plus cher.
Ce qui me choque, c'est que je discute souvent avec les contrôleurs. Je discute souvent avec eux. Ils conviennent que c'est hors de prix et qu'ils appliquent souvent des sanctions et des tarifs.
Vous n'avez pas de billet de
train. Vous n'avez pas de billet de train. Vous montez dans le train quand même. Vous avez le billet de bord avec la pénalité, alors que vous n'avez même pas de siège. J'aurais apprécié, puisqu'il faisait un geste, qu'il fasse une grève, c'est-à-dire on fait pas grève mais on contrôle pas.
Exactement. Voilà. Ce qu'ils ont déjà fait.
Et là, ils ont carrément dit on n'y va pas. Donc ils savent qu'ils allaient bloquer les trains, alors qu'ils auraient pu maintenir le voyage. Ils pénalisaient le patron.
Exactement.
Avec un manque à gagner épouvantable, mais on contrôle pas. Ça veut dire que tout le monde aurait pris, sauf quand il y a le contrôle au départ, mais dans les autres gares. Voilà. Et ça, j'aurais apprécié.
Moi, je serais parti en week-end si j'avais fait ça.
Ah ben moi, tout de suite. J'aurais fait 4 fois le voyage pour rien.
Le problème, c'est les gares parisiennes et les grandes gares où effectivement t'as le contrôle au départ, mais dans les gares intermédiaires comme Dijon, t'as pas le contrôle.
Ils pouvaient aussi, comme c'est eux qui contrôlent.
Ben, je peux vous dire que moi, ça m'a coûté pour venir aujourd'hui. Déjà, trouver un
train. Là, j'ai pas compris.
Et puis surtout, repartir ce soir. Et je voyais tous les TGV pour Dijon qui s'annulaient. Je vais être obligée de rentrer en TER à 23h.
Est-ce que tu as payé plus cher que ton billet initial?
En fait, ça allait. Comme ils ont laissé que 2 TGV pour rentrer à Dijon ce soir, les gens se sont rués dessus. Et je préviens la comptabilité d'RMC que j'ai touché de prendre une place en première classe. Excusez-moi.
Là, c'est l'offre à la demande.
Mais j'ai pas eu le choix. Il n'y a que 2 TGV qui partent. C'est des gens qui vont rester à quai. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une place. Et jusqu'au bout, je me suis demandé si j'allais appeler notre Paul, qui est aussi notre rédacteur en chef, en disant Paul, je peux pas venir, quoi. Et donc là, je m'en suis sortie. Et oui, est-ce que c'était plus cher? Pas sur mon trajet à moi, mais j'en ai entendu parler sur d'autres trajets.
Mais c'est quand même hallucinant, c'est qu'on supprime. On te supprime ton train et derrière on te fait repayer plus cher.
Mais le problème,
c'est quand même. Excusez-moi, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi.
Oui. Bah, de toute façon, avec la SNCF, il y a un truc qui ne va
pas. Ça fait la main de Paul.
En revanche, du point de vue des contrôleurs, moi, je comprends tout à fait qu'ils continuent de contrôler parce que comme ça, du coup, les gens râlent. Ce qu'on est en train de faire ici, et du coup, on parle encore plus de leur mouvement. Parce que s'ils avaient fait comme Perico avait dit, on laisse ouvert à tout le monde.
Non,
interdit de façon, c'est illégal.
Oui, alors ça aurait été populaire.
Non, c'est illégal. Oui. Ils le disent pas.
Non, ils le disent pas. Mais non, s'ils en disent rien.
Mais non.
S'ils
en disent. Mais parce qu'ils ont un certain nombre de contrôles à effectuer chaque jour, chaque journée de travail, et s'ils en font aucun dans la journée, c'est illégal.
Non, je pense pas que ce soit pour ça, c'est pour l'histoire d'assurance.
Ça, non,
c'est parce que le billet t'assure aussi. Si t'as un problème, oui, assuré par le billet, c'est pour ça.
Un contrôleur qui ne contrôlerait pas et qui refuserait de il peut être licencié pour ces raisons.
Non, mais il peut être en grève, mais ne pas contrôler. Tu vois ce que je veux dire?
En revanche, je pense que potentiellement ça pourrait être une grève populaire, ce qui est rarement le cas à la SNCF, parce que c'est vrai que les conditions de travail chez les contrôleurs, personne n'en veut. Ce matin, j'en entendais un sur RMC, il dit une nuit sur deux, il dort pas chez lui. Déjà, c'est ça. En plus, on se tape quand même tous les gars. On a tous vu déjà des mecs bourrés, violents, qui insultent le contrôleur dans des trains, et c'est eux qui se les tapent.
Ils assurent une certaine sécurité.
Et c'est là où nous,
ils
font un métier difficile, pas très bien payé, ils dorment mal chez eux, donc évidemment on les soutient. Après, c'est sûr que c'est insupportable si on doit payer 300 euros.
Moi, je sais pas toi qui prends le train beaucoup aussi, moi les contrôleurs, mais ils sont adorables. Mais vraiment, depuis des années, ils m'ont dépatouillé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis complètement d'accord.
Depuis quelques années.
Il y a 20 ans, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, je les trouve adorables. Ils ont de l'humour en plus quand ils font leurs annonces.
Et t'as le flic qui
sac. T'en auras toujours un. Comme dans tous les métiers. Là, on enfonce des portes ouvertes. La hausse du jour.
Après la flambée des prix du carburant, tiens, voilà celle des péages. Les sociétés d'autoroute vont augmenter les tarifs de péage de 4,75% en moyenne au 1er février prochain, confirmation faite ce matin par le ministre des Transports. Les hausses varient entre 4,5% et 5,07% selon les axes, largement en dessous de l'inflation de référence, qui est de 6,33% selon une source proche d'un concessionnaire autoroutier.
Mais je crois que les sociétés d'autoroutes se sont gavées largement au-dessus de l'indice de référence
des prix.
Enfin, c'est hallucinant.
C'est un scandale d'État. Elle devait à un moment donné restituer leurs droits. Monsieur Jospin et Monsieur Villepin, gauche et droite, ont donné ce qui est un trésor de la République, un cadeau magistral à sa société qui se gave. Nous continuons à entretenir les voies, bien entendu. Et là, ils se permettent, pour leurs actionnaires, d'augmenter parce que le coût coûte pas plus cher, c'est l'État qui le prend en charge. Pour leurs actionnaires, et on dit rien. Et ça passe comme une pilule. Voilà. Alors, tout à l'heure, je m'emportais sur le nucléaire que le gouvernement. Là, je dois dire, c'est pas cette majorité-là.
Mais c'est incroyable.
Par contre, elle aurait pu le changer. Ces autoroutes appartiennent. Ah ben, tu nationalises.
Bah oui, tu renationalises
l'auto. Applique-vous l'argent.
Mais rien du tout.
Non, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros.
Maintenant, on est capable de le prouver pour trouver n'importe quoi.
C'est spoliation.
Spoliation.
Très bien.
Alors, je vais te dire, il n'y aura aucune plainte et Bruxelles pourra hurler. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas ça.
Si on veut.
Rémi, tu sais que c'était à nous au départ.
C'est de la spoliation. Après, va dire aux
investisseurs
de venir en France.
Non, ils nous ont spolié.
Non.
On s'est laissé spolier.
On a bradé les autoroutes aux opérateurs privés.
Bon, en fait, c'est un scandale d'État permanent.
Il y a des coups d'État permanent, ça c'est le scandale d'État permanent.
Ça vous scandalise, vous, Benjamin Muller, voilà, la hausse du prix des péages.
Oui, et surtout on se demande comment on voyage maintenant. Parce que c'est de ce dont on parle depuis midi, en fait, c'est ça.
Il n'y a plus de court-courrier.
Ah, c'est vrai. Paris, non. Non, mais entre ça, le prix de l'essence,
le prix du billet d'autoroute, maintenant,
Le prix du billet de train qui est hors de prix, bon, surtout si on doit changer de billet. Le prix de l'essence, on en parle un peu moins. Enfin, ça reste très élevé, hein, quand même.
Je suis à plus de 2 euros, moi,
ouais,
pour le parisien.
Là, on est à 2 euros, là, à Paris. Et on en parle bizarrement moins, alors que ça reste très cher.
Après, donc, Rémi est à 1,75, donc, voilà, ça dépend.
Et moi, je suis à 1,80.
Voilà. Enfin, ça reste même cher.
Si on réfléchit, c'est hyper cher.
Et du coup, je me demande si, dans l'avenir, on va même, je parle même pas de raisons écologiques, juste pour des histoires d'argent. Avant de partir en week-end, je veux dire, là où on réfléchissait peut-être moins il y a quelques années, maintenant c'est vraiment c'est un budget, c'est colossal, en fait, que ce soit en train.
Non, on va rester confinés chez nous au rythme, ça va.
Et alors après, il y a le petit charme des routes départementales, si je peux deux petites secondes être léger, si ça existe.
Non.
Le sud, quand vous prenez la. Rappelez-moi la nationale 7.
Non,
ah bah si, la nationale 7,
on s'arrête. La nationale 7, elle va jusqu'en banlieue parisienne. C'est pas toujours une partie de plaisir, c'est un enfer.
Tout le réseau secondaire est merveilleux.
C'est des magasins ignobles.
C'est charmant, c'est Émilie.
Ah non, c'est pas charmant.
C'est Jean-Pierre Pernaut. C'est la France qu'on aime aussi.
On parle pas en banlieue parisienne, je peux vous dire.
Non, la banlieue parisienne, quand vous sortez de Melun, c'est pas forcément le plus charmant. Non. Mais quand vous traversez la France par ces petites routes, vous menez un peu plus de temps, mais
oui,
vous donnez du temps au temps.
Il vous faut un week-end de 7 jours, quoi.
Non, c'est pas pour les vacances, pour les départs en vacances.
Mais c'est pas le même combat. Là, c'est Estelle dit se rendre quelque part. Je suis totalement favorable au réseau secondaire, mais.
Mais je suis d'accord que l'autoroute, c'est hors de prix. Autoroute plus essence, c'est des budgets colossaux.
En fait, on se dit, Emmanuel, voilà, on va devoir rester chez nous. Quoi.
Mais moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Quand je fais, comme on ne se connaît pas avec Benjamin, donc j'habite dans un petit village à 30 minutes de Dijon. Quand mes jumeaux qui ont 16 ans.
C'était 25 minutes.
Ça dépend combien je roule. En fait, moi, je roule déjà à 110 depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais les garçons, quand ils veulent aller voir des amis le week-end, il y a des fois, je dis non. Je dis, tu prends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. Crise de rire sur le plateau, j'ai raté un épisode.
Je roule à 110 depuis la guerre en Ukraine. Excusez-moi, ça m'a.
Je pensais que c'était ton électricité qui était en 110.
Toujours est-il que les garçons ont réfléchi à deux fois comment on s'organise pour les amener voir leurs amis en week-end à Dijon. Et la plupart du temps, c'est tu prends le bus, tu prends le transco, tu prends le voilà.
Oui, ils prennent pas l'autoroute puisqu'ils sont.
Non, mais je veux dire, je ne fais pas forcément le trajet, je ne fais plus les trajets, c'est ça que je veux dire.
Le chantier du jour.
Ça va vous agacer, ça. Au Grand Bornand, en Haute-Savoie, le Grand Bornand, où doit se dérouler du 15 au 18 décembre prochain une étape de la Coupe du Monde de biathlon. Problème ?
J'adore le biathlon.
Il n'y a pas de neige.
Oui, c'est embêtant.
Et donc, depuis de lundi jusqu'à hier, il y a eu un balai incessant d'une douzaine de véhicules, va-et-vient, entre les points de stockage de neige de la commune, donc neige artificielle, et la piste du stade. Ça a duré du matin jusqu'au soir. Et bonne nouvelle, il y a de la neige artificielle. La compétition pourra avoir lieu.
Ah, bah super.
12 000 mètres cubes de neige artificielle.
Ah, Emmanuel,
ça va être de plus en plus. Hein. Ça va être alors, moi, j'adore le biathlon. C'est vraiment une activité.
D'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que moi, on supprime mon minibar et mon avion.
Je dis, c'est un énorme problème. J'adore. Je dis juste que c'est pas contre le biathlon ce que je vais te dire, puisque c'est un sport que j'adore et que j'ai eu l'occasion de faire. Mais cela dit, non, évidemment que c'est intolérable ce que Rémi est en train de nous dire pour le Grand Bornand. Mais en fait, on va faire ça de plus en plus en réalité. Là, c'est une première fois, ça nous choque et ça va arriver. Puis au bout d'un moment, il y a des choses qu'on sera obligé d'arrêter.
Excusez-moi, il y a des stations. Là, alors moi, j'adore le biathlon. Évidemment, en plus, je viens de la chaîne d'équipe, donc si vous voulez, c'est le sport phare. Et j'aurai énormément de plaisir à voir cette première étape du biathlon. Mais sauf que là, aujourd'hui, vous avez les stations de ski qui démontent. Les télésièges, parce qu'elles disent, de toute façon, il n'y a quasiment plus de neige, il n'y en aura plus l'année d'après, etc. Donc, on va vivre autrement. Je suis désolée, mais le monde d'après, c'est pas d'amener des camions de neige au Grand Bornand.
Je suis complètement d'accord.
Et il y en a d'autres qui font d'autres
choix. Et là, vous me dites, j'aime bien le biathlon.
Juste pour dire qu'on m'accuse pas de pas aimer le sport, etc. Mais je suis complètement vent debout contre ce que nous annonce Rémi. Et pour autant, voilà, moi j'aime le biathlon. Il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. C'est ça que j'entends dire. Et j'avais déjà dit ici dans cette émission que nous, on arrêtait le ski. Alors que mon homme et ses enfants, ils sont tous fanatiques de ski. On a décidé qu'on arrêtait le ski. Pour deux raisons. Très clairement économique, parce que ça coûte une blinde. Et la deuxième à 50% écologique aussi. On s'est dit on va plus au ski. Alors qu'eux ils adorent ça. Moi je peux m'en passer.
De la vraie neige. Mais là pour le coup, on peut aussi se dire que tant pis pour cette étape du Grand Bornand.
Exactement.
Et puis soit on passera à la deuxième, soit le Grand Bornand tu l'as fait plus tard, soit tu décales,
soit tu fais ailleurs.
On ira faire de la luche sur les terrils du Nord. Et on est
On a tellement critiqué les Jeux Olympiques où on était sur neige artificielle, où il y avait pas de neige. On a critiqué tout le monde. On a donné des leçons à tout le monde. Et finalement, nous on fait la même chose. Ça me choque en fait.
Oui, c'est vrai. C'est à notre échelle, beaucoup plus petite échelle, mais c'est vrai qu'on donne des leçons au Qatar à juste titre parce qu'ils foutent de la clim dans des stades. Les jeux, comment c'est les jeux asiatiques là qui vont être organisés où là ça va coûter un fric phénoménal. Effectivement,
on
marche sur la tête, mais c'est vrai que nous les Français on donne des leçons à tout le monde, à de petite échelle il fallait annuler en fait tout simplement. Et ça demande du courage politique.
Et pourquoi ils annulent pas?
Il y a des investissements.
Ils annulent pas parce que c'est l'étape de Coupe du Monde de biathlon, c'est hyper prestigieux pour la commune, c'est des retombées incroyables.
C'est aussi la chaîne équipe qui fait ses meilleures audiences de l'année sur le biathlon, mais c'est pas que ça, mais c'est devenu un sport super populaire. Et je veux dire, et tout le monde l'attend, et donc en fait c'est les retombées économiques, elles sont monstrueuses. Et quand je dis on pourrait le décaler dans la saison, en fait non, bien sûr que non, tu peux pas le décaler dans la saison. Donc si tu la fais pas là, ton étape, bah tu la fais jamais, et donc c'est un énorme manque à gagner. J'imagine que tu vas avoir des assurances également,
faudrait pouvoir changer de lieu au dernier moment, j'imagine que ça se fait pas si facilement, mais en tout cas réfléchir à de manière autre qu'un camion qui va vous amener votre fausse neige.
Après parfois il y a eu du brouillard sur les étapes de biathlon, les étapes ont été reportées d'une journée, etc. mais là manifestement, si ça avait été une journée, ça aurait pu être reporté, mais j'imagine que c'est beaucoup plus que ça. Et puis derrière, t'as la deuxième étape et la troisième, donc en fait, ça c'est un jeu de domino. Donc c'était compliqué, mais c'est vrai que voilà, on demande à tout le monde de faire des efforts, et quand on voit ça, t'as envie de chauffer à 22 dans ton appartement, quoi. Le rendez-vous du jour.
Oui, le Téléthon débute aujourd'hui, il durera jusqu'à demain après 2 années de pandémie dans un contexte difficile pour les Français avec l'inflation. La FM Téléthon espère faire au moins aussi bien qu'en 2021. 86 millions d'euros avaient été récoltés l'an passé, et comme chaque année, il n'y a qu'un seul numéro pour faire un don, c'est le 36 37.
Et franchement, c'est un rendez-vous très important parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Hein, voilà, ces dernières années avec la recherche et tous les dons faits au Téléthon, mais là, on peut un peu s'inquiéter, Emmanuel Dancourt, parce que c'est vrai que les Français n'ont pas forcément la tête à ça. C'est vrai que l'inflation a énormément augmenté, et on se dit que là, il risque d'y avoir un problème pour les dons
en
cette
fait,
année.
Ce dont on s'est rendu compte en termes de dons, c'est que les gens, d'une manière générale, donnent moins, mais ceux qui donnent plus, en fait. Donc, ils s'y retrouvent. En réalité, ça n'a pas tant changé que ça, parce que ceux qui peuvent donner, ils ont donné plus pour combler ceux qui ont arrêté de donner, parce que là, ils n'y arrivent plus. Honnêtement, ils n'y arrivent plus. Et à un moment, on n'a pas le choix. Il faut se centrer sur son budget familial. Donc, il ne faut pas leur taper dessus à ces gens-là. Ils reviendront dès que ça ira mieux, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, tout simplement. Et bien sûr qu'il faut donner au Téléthon. Je crois que c'est Kev Adams qui parraine cette année. C'est le plus jeune parrain du Téléthon.
Ce qui est une très bonne idée pour rajeunir sans doute le public devant France.
Un peu l'audience aussi.
Et pour rappeler, pour ceux qui peuvent le faire, évidemment, et pour ceux qui paie des revenus, qui a un abattement fiscal, c'est-à-dire que si vous donnez 30 euros, c'est 60% d'abattement fiscal.
La loi Coluche.
La loi Coluche.
Quand tu donnes 100 euros, en fait, on prend 66. Mais c'est important. Et puis en plus, tout ce qui est donné au Téléthon, c'est pour la recherche, mais sur de très très nombreuses maladies, pas uniquement ces maladies génétiques. Il faut s'inquiéter pour justement la hauteur des dons cette année, Benjamin.
Oui, il faut s'inquiéter sur la hauteur des dons, même si c'est vrai qu'il y a des micro-dons possibles et qui continue d'exister, ce qui est très intéressant.
Par SMS
notamment. Vous savez aussi, dans les caisses, vous savez, quand vous allez acheter, vous avez pour 65 euros, 66, et ça vous propose d'arrondir au truc supérieur. Alors, ce qui est une manière pour l'État de ne pas récupérer justement les petits dons d'impôts, mais qui est une manière un peu indolore de faire des micro-dons, ne pas hésiter. Ce qui est toujours très bien fait, moi je trouve, pendant le Téléthon, c'est qu'ils expliquent bien que chaque euro est utilisé, et ils nous montrent aussi d'où on vient. Et les progrès qui sont faits, je ne suis pas généticien, mais les progrès, quand on les écoute, c'est extraordinaire ce qui a été fait en 37 ans, je crois. Donc en fait, j'ai toujours tendance à penser que cette émission va permettre de lever des fonds de gens qui n'auraient pas forcément prévu de donner. Mais quand on voit une histoire d'un gamin qui a été sauvé, on se dit ok, je donne.
Évidemment.
C'est hyper important.
On va terminer avec le rongeur du jour.
Allez, alors que plusieurs témoignages soulignent une prolifération des rats dans les rues de Bordeaux, la municipalité écologiste met en avant l'utilité de l'animal. Et le moins que l'on puisse dire,
bien sûr,
c'est que l'équipe n'y va pas par de main morte. Les rats sont indispensables dans les villes. Et c'est Jean-Baptiste Tony, conseiller municipal en charge de la propreté, il le dit dans le Figaro, et de poursuivre en estimant ne pas être en capacité de dire s'il y a plus ou moins de rats à Bordeaux qu'avant.
Perico, je vais vous laisser terminer, reste 20 secondes.
Non, mais à Paris, on les appelle les surmulots parce qu'il ne faut pas utiliser le mot rat. Donc là, Bordeaux, ils ont un train de retard. Et puis, et puis les punaises, les insectes, la vérolgue, tout ça, c'est la nature. Donc c'est formidable.
C'est génial.
N'est-ce pas ? Comment expliquer qu'un fléau consécutif de la démission politique ou d'une idéologie assassine est devenu un bienfait public ? Voilà, on est dans le néo-stalinisme, mais ça va arriver très vite. Là, on est aux prémices verbaux. On est aux prémices dialectiques. Ensuite, ils vont passer à l'acte. Il y aura des camps de réinsertion pour les gens qui trouveront que les rats sont pas gentils.
Je savais que je pouvais compter sur vous.
On en reparle.
Bien sûr qu'on va en reparler, Pierre et Collégas, mais c'est la fin d'Estelle Midi.